Rebienvenue à En profondeur. Nous avons maintenant en studio Marie-Ève des Apatrides Anonymes. Bienvenue.
Bonjour Laila, ça va bien?
Oui, merci. Comment ça va?
Ça va très bien. Okay. Avec les flocons en vélo, ça va super bien. Première expérience de vélo en hiver cette année.
Ouais. Ben, c'était
inattendu.
Donc, donc allons-y. Qu'est-ce que de quoi on va parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous amène seulement à l'international. On va parler de l'Italie et de la France. On le sait, il n'y a pas une semaine en Europe qui se passe, particulièrement en Méditerranée, qui se passe sans un naufrage de bateaux transportant des personnes migrantes dans la Méditerranée. Cette année, seulement, il y a 3300 personnes qui ont trouvé la mort dans la Méditerranée en essayant de traverser en Europe. Et ce, malgré le fait que, en 2013, il y avait eu une catastrophe à Lampedusa, une ville en Italie, où 336 personnes migrantes étaient mortes dans les eaux de la Méditerranée. Et donc, l'Italie avait décidé de lancer une opération de sauvetage de personnes migrantes, opération qui s'appelait Mare Nostrum, qui veut dire notre mer. Je vous en avais parlé, si vous en rappelez, quand je vous ai parlé des noms scandaleux d'opérations, oui, et de rafles de migrants en Europe. Mm-hmm. Mare Nostrum en était un qui faisait référence à des opérations de Mussolini à l'époque. C'était pas très joyeux. Alors, donc cette opération-là, qui avait lieu depuis octobre 2013, a permis d'intercepter 150 000 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée et d'arrêter supposément 351 passeurs. Cette opération-là, Mare Nostrum, a coûté en un an 114 millions d'euros. Et donc l'Italie y a mis fin là dernièrement, à la fin octobre. Donc, il n'y avait plus aucune opération qui était dédiée finalement à la recherche et la sauvegarde de naufragés migrants dans la Méditerranée depuis. Là, il y a l'Union européenne qui, le 1er novembre, a lancé une autre opération navale baptisée Triton, qui a été confiée à Frontex, qui est l'Agence européenne de surveillance des frontières. Cette fois-ci, ça va être supervisé par les autorités italiennes encore une fois et va avoir l'opération Frontex. Pour cette opération-là, va avoir un budget mensuel de 2,9 millions d'euros. Si on veut comparer avec Mare Nostrum, par exemple, son budget mensuel était de 9 millions d'euros. Donc 2,9 millions versus 9 millions d'euros par mois. Et pour cette opération-là, Frontex va disposer de 21 navires, 4 avions et un hélicoptère, ainsi que 65 officiers qui vont être fournis par les États membres de l'Union européenne participants. Ils sont une vingtaine en tout sur les 28 de l'Union européenne. Puis si on veut encore une fois comparer Mare Nostrum, si on compare le nombre d'officiers, 65 pour l'opération Triton, 900 pour l'opération Mare Nostrum, 21 navires comparativement à 32 pour l'opération Mare Nostrum. Alors, on voit en fait que, à côté des moyens de Mare Nostrum, les moyens dont va disposer le Frontex pour l'opération Triton sont complètement dérisoires. On est en droit de se demander et de remettre en cause l'efficacité d'une telle opération pour éviter des milliers et des milliers de morts chaque année dans les eaux méditerranéennes. Mm. La durée de cette opération-là n'a pas encore été déterminée. Ça va dépendre des budgets parce que je sais que l'Union européenne là, va avoir à voter bientôt les budgets globaux de Frontex, là, qui est l'agence frontalière. Donc, ça va dépendre. Donc, on va voir ça un peu une fois par mois, reprendre la décision de qu'est-ce qui se passe avec cette opération-là. Comme je vous l'ai dit, c'est clair que c'est pas une opération de sauvetage. Hein? C'est pas une opération qui va remplacer l'opération de sauvetage. C'est vraiment une opération de contrôle des frontières. Donc, tout l'argent, en fait, qui va être dépensé, on serait sans doute plus utile à servir à offrir aux personnes migrantes qui arrivent en sol européen plutôt que de dépenser justement pour parce que Frontex va envoyer également 5 équipes d'enquêteurs pour aider les autorités italiennes à collecter des renseignements sur les réseaux de passeurs. Donc on comprend bien que le but c'est ça, c'est pas d'aider les personnes migrantes qui sont à la recherche d'une vie meilleure en traversant vers l'Europe, mais bien récolter des renseignements pour ficher le plus de personnes possible et, encore une fois, fermer les frontières. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... c'était mon premier sujet d'aujourd'hui.
Merci.
On va rester en Europe. Cette fois-ci, je vous amène en France, la France et ses terroristes, entre guillemets.
Oui.
Si vous avez un peu suivi les nouvelles dernièrement, jeudi dernier, il y a la Cour suprême du Canada. Vous allez comprendre le lien avec la France. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel de Hassan Diab, qui contestait depuis 2008 un ordre d'extradition de la France. Et donc, la Cour suprême a rendu sa décision. En fait, c'est depuis juin 2011, la Cour supérieure de l'Ontario avait statué que M. Diab devait être extradé vers la France à la demande du pays, tout en rendant cette décision-là, la Cour supérieure avait quand même reconnu que les preuves retenues contre M. Diab étaient très, très faibles et peu ou pas fiables. Je vais vous faire un peu revenir sur l'histoire de M. Diab. Il avait été arrêté donc en 2008, comme je le disais, par la GRC ici au Canada à la demande de la France, car elle le soupçonne d'avoir collaboré à une attaque à la bombe dans une synagogue de Paris, attaque qui est plus connue maintenant sous le nom là, des attentats de la rue Copernic. C'était en 1980, donc ça fait vraiment très longtemps. Mm-hmm. Et c'est un attentat qui aurait tué 4 personnes et en blessé plusieurs autres, là, autour d'une quarantaine. Mm-hmm. Monsieur Diab, quant à lui, a toujours clamé son innocence, a toujours dit qu'il y avait erreur sur la personne, voilà. Les délais d'extradition après une telle décision, normalement, est de 45 jours. Ben, il a été extradé le lendemain. Donc, la décision de la Cour suprême a été rendue le jeudi. Il a été extradé dès le lendemain sans pouvoir revoir ni sa fille ni son épouse ici au Canada. Donc là, il est détenu en France actuellement. Il a été formellement accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat et de... ça va être un peu formel, là, mais... et de destruction de biens par l'effet d'une substance incendiaire ou explosive commise en bande organisée. Donc, c'est inquiétant pour M. Diab parce que les cours antiterroristes en France permettent des verdicts de culpabilité basés sur des rapports de renseignements secrets, anonymes et de provenance inconnue. Ça fait qu'on peut y mettre à peu près n'importe quoi puis à peu près aucune façon de vérifier, finalement, d'attester de la fiabilité des faits qui sont amenés contre M. Diab. Et pour terminer, en plus, moi, je me rends compte que je suis allée vite pas mal.
Non, c'est la patience.
puis, donc, il y a ça en termes de... pourquoi, en fait, ça regarde pas super bien pour M. Diab. En plus, c'est que ces cours antiterroristes-là, je vous avais parlé aussi, je pense, à ma dernière chronique, des certificats de sécurité ici au Canada. Vous savez qu'ils s'adressent, cette mesure qui s'adresse aux non-citoyens canadiens puis qui permet de détenir des personnes sans procès, sans avoir accès à la preuve qui est retenue contre eux. C'est un peu la même chose pour la France, mais avec un seuil encore plus bas que les certificats de sécurité concernant la preuve. Puis je vous parlais de la France et ses terroristes, en guillemets, parce que, de toute façon, on va vous tenir au courant là, de ce qui va arriver, parce que ça peut prendre du temps, les procédures pour M. Diab, ça peut prendre facilement jusqu'à 2 ans en France. Mais si on regarde l'issue d'un procès qui a eu lieu dernièrement, en fait, la même journée, jeudi dernier, la même journée que la Cour suprême rendait sa décision dans le cadre de la Cour suprême du Canada, rendait sa décision dans le cas de M. Diab. En France, il y a une décision rendue par un tribunal dans la cause de M. Flavien Moreau, qui serait le premier soi-disant djihadiste français à rentrer de Syrie et à avoir passé en jugement. Mm-hmm. Il a été condamné donc jeudi dernier, comme je le disais, à 7 ans de prison ferme, OK, pour avoir rejoint un groupe de combattants pour faire le djihad. Et jugé dans la même cause, dans la même affaire, pour avoir entretenu une correspondance avec M. Flavien Moreau et d'avoir reçu de l'argent de lui. Il y a un autre homme, M. Farid Djebar, qui a été, lui, condamné à 4 ans de prison avec sursis. Mm. Je voudrais juste comme remettre un peu des choses en perspective parce que actuellement on parle beaucoup d'agressions sexuelles, de ce qui est fait avec les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle. Si oui ou non ces cas-là vont vraiment au bout de ce qui devrait être, c'est-à-dire aller en justice et tout ça. Je vous rappelle qu'au Canada, là, la peine maximale pour viol, là, c'est 10 ans, puis qu'en moyenne, ça dépasse rarement 4 ans. Donc là, on est dans des cas où c'est clairement du profilage, il y a le profilage racial et politique, donc où on condamne des gens pour aller avoir été supposément fait le djihad. Là, on ne sait même pas non plus quel genre de preuves ils avaient par rapport à ça. Voilà, donc c'était la France et ses terroristes en séjour de...
Merci beaucoup pour tout ça, Marie-Ève.
Je vous rappelle que si jamais vous voulez réécouter nos chroniques, les Apatrides anonymes, vous pouvez le faire. Toutes nos chroniques sont archivées sur notre site web qui est le apatrideanonyme au pluriel.info.
Merci.